Vous êtes avec SBS French.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord les JO de Pékin, le biathlon, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champion olympique de danse sur glace. La correspondance de Christophe Dienzian sur place pour RFI.
Les vice-champions de 2018 ont remporté il y a quelques heures le titre olympique à Pékin à l'issue du programme libre. Un sacre déjà largement acquis grâce à leur performance du programme court. Mais malgré l'avance acquise à ce moment-là, notamment sur les Russes Sinitsina et Katsalapov et les Américains Hubel et Donohue qui les accompagnent sur le podium, Guillaume Cizeron l'admet, la pression était énorme à l'entrée sur la patinoire.
Serein, c'est un bien grand mot, je crois, mais je pense que j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Mais je pense que il y avait une certaine sérénité dans le fait qu'on sait qu'on peut faire confiance en notre entraînement, qu'on peut se faire confiance sur la glace. Donc, je veux dire, il y avait tout ce bagage, il y a tout cet entraînement, ces 17, 18 années de partenariat ensemble, de moments sur la glace. Donc, on a tout ce bagage sur lequel se reposer, mais c'est sûr que c'était quand même vraiment très très stressant.
Guillaume Cizeron au micro de France Télévisions, le danseur sur glace qui avec sa partenaire Gabriela Papadakis s'adjuge également le record du monde avec 226,98 points.
Et puis Quentin Fillon-Maillet a gagné l'or dimanche. Marie-Amélie Motte et Christophe Dienzian pour RFI.
L'autre est en train de rejoindre les plus grands biathlètes de l'histoire en décrochant une quatrième médaille et la plus belle en autant d'épreuves disputées. C'est le français Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite aujourd'hui. Et on en parle tout de suite avec notre envoyé spécial Christophe Dienzian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Marie-Amélie.
Pour Quentin Fillon-Maillet, Christophe, c'est une victoire obtenue de main de maître.
Oui, on peut dire la main d'un homme qui n'a pas tremblé pour réussir un 20 sur 20 au tir, un des éléments de la réussite du Jurassien de 29 ans, parti avec 25 secondes de retard sur son principal rival, le Norvégien Johannes Bø, pour respecter les écarts à l'arrivée du classement du sprint. Bø a été un temps plus rapide sur les skis que son adversaire, mais ses chances de titre se sont envolées lorsqu'il a raté trois fois la cible lors de sa première séance de tir debout. À l'arrivée, c'est même son frère Tarier qui sera le dauphin de Quentin Fillon-Maillet, qui devient, avec ce deuxième sacre après celui de l'individuel, le premier athlète français de l'histoire des JO d'hiver à empocher 4 médailles lors d'une même édition. Et ça le rend d'autant plus fier que la neige et le vent sur le site de Zhangjiakou ne l'ont pas vraiment aidé.
Les conditions étaient vraiment compliquées, mais bon, avec une médaille d'or au final, c'était 20 degrés avec le grand soleil au bord de la plage. C'est juste incroyable de continuer sur cette lancée. Je suis tellement fier. La course a été vraiment exténuante. Ça a été, je pense, la course la plus dure de la saison jusqu'à maintenant. J'ai donné le meilleur de moi-même. Médaille d'or aujourd'hui, c'était bien au-delà de mes rêves. Quand j'étais petit, je me disais, j'ai envie de créer mon histoire, d'écrire l'histoire du biathlon. Et c'est chose que je fais aujourd'hui. 4 médailles en 4 courses, c'est tellement fort, c'est tellement beau.
Et ça pourrait être encore plus beau dans les jours à venir pour celui qui domine par ailleurs le classement de la Coupe du Monde, car il lui reste encore 2 courses à disputer, le relais masculin et le départ en ligne. Et quoi qu'il arrive, il ne dépassera pas le total de récompense de Martin Fourcade, cette récompense en 3 jeux d'hiver, mais il pourrait égaler, voire dépasser les 3 titres que le Catalan avait décrochés à Pyeongchang en 2018.
Et on passe maintenant au foot avec le Real de Madrid qui jouera contre le Paris Saint-Germain ce mardi en Ligue des Champions. Pierre Chaperon et Marie-Amélie Motte pour RFI.
Pierre, pas de but pour le Real hier donc et un 6e match nul en championnat. On est inquiet en Espagne avant ce rendez-vous parisien?
On est partagé ici. Hein. D'un côté, la première période médiocre, complètement mangée par Villarreal, où c'était difficile pour le Real de sortir la balle. Une première partie qui a pas mal inquiété d'ailleurs l'entraîneur Carlo Ancelotti. Une première partie marquée par ce poteau trouvé par l'ailier néerlandais Danjuma, natif de Lagos au Nigeria. De l'autre, en seconde période, une équipe qui joue plus haut, qui attaque le ballon, qui a les meilleures occasions. Et c'est cette deuxième partie qui a le plus emballé la presse, avec plusieurs occasions, 2 transversales de Gareth Bale et Luka Jovic, ce qui explique par exemple ce matin que AS Barça une d'un titre prêt pour Paris. Mais encore une fois, cette saison, on a eu un Madrid à 2 visages. Écoutez le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui revient en forme d'ailleurs. Il résume le sentiment général, la seconde période a été meilleure.
Je crois que surtout après la seconde mi-temps, le résultat aurait peut-être été légèrement différent. Mais bon, c'est le football, il faut marquer des buts, nous n'avons pas été efficaces, et donc on ne ramène qu'un point à la maison. On a changé en seconde période, c'est un peu grâce à l'entraîneur. Il voit le jeu différemment, il nous a orientés, il nous a parlé. Mais bon, je crois qu'il faut rester sur cette deuxième mi-temps, parce que ce qui nous arrive, c'est le plus important et le plus difficile. Et nous devons jouer comme nous avons joué sur la deuxième partie du match. Nous travaillons bien, nous nous reposons bien, évidemment, nous voulons tout gagner.
Le Real en championnat qui ne compte plus que 4 points d'avance sur Séville, vainqueur 2-0 de Elche. Une stat, Marie-Amélie, en l'absence de Benzema, le Real a joué 3 matchs, 44 tirs, 1 but. Ça aussi, on en parle pas mal en Espagne aujourd'hui.
Karim Benzema, blessé pour ce mardi. À nouveau, Marie-Amélie Motte pour RFI.
Et justement, Karim Benzema est absent depuis le 23 janvier. Il est blessé à l'ischio-jambier gauche. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'international français ?
Alors aujourd'hui, il a participé à une partie de l'entraînement collectif et après, il s'est contenté d'un footing léger. Il est dans la liste des convoqués pour le match de mardi. Le Real, Carlo Ancelotti en tête, prendra sa décision finale demain lors du dernier entraînement. Le joueur et le club veulent qu'il soit sur la pelouse, même s'il n'est qu'à 50-60% de ses capacités.
Ouais, et l'autre incertitude concerne Ferland Mendy, qui lui aussi est convoqué pour le match de mardi.
Oui, alors lui, il a fait l'entraînement complet ce matin, blessé aux adducteurs depuis le 31 janvier. Ancelotti, vendredi, a dit qu'il serait là. C'est une bonne nouvelle parce que Marcelo, c'est pas forcément la sécurité. Encore bien malmené hier, notamment par l'ailier nigérian Samuel Chukwuese. Mendy devrait apporter un tout petit peu plus de sécurité dans ce secteur où il aura face à lui quand même de très gros clients. Dans les deux cas, c'est quand même des blessures qui sont sujettes à rechute, donc à voir si le physique tiendra mardi au parc.
Et on passe maintenant en Angleterre, le championnat, la 24e journée, les matchs du week-end. Bilan avec Marie-Amélie Motte et Philippe Auclair pour RFI.
Oui, avec cette victoire 1-0, Liverpool a conforté sa place de dauphin. 7 points d'avance sur Chelsea, 11 sur West Ham qui est quatrième. Philippe, la bataille s'annonce intense pour cette quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. West Ham, United, Arsenal, Wolverhampton et Tottenham peuvent tous y prétendre. Et ce week-end, il valait mieux ne pas jouer pour éviter de perdre des points dans cette course à l'Europe.
Oui, Marie, la danse a commencé en l'occurrence avec Manchester United. Bon, qui était face, c'est vrai, à une équipe de Southampton qui marche très fort en ce moment, puisqu'ils ont fait match nul contre Manchester City, ils ont battu Tottenham à Tottenham. Mais après avoir vu Manchester United ouvrir la marque, on pouvait s'imaginer que cette fois, ça serait bon. Eh bien non, une fois de plus, ça n'est pas la première fois sous Ralf Rangnick. Leur adversaire est parvenu à remonter au score, et pas du tout contre le cours du jeu. Du coup, Manchester United a perdu 2 points bêtement devant son public, une fois de plus. Tottenham, ça n'était pas mieux, en fait, c'était pire. C'était pire en l'occurrence. Et puis West Ham a conclu le bal, et ça aurait pu être encore pire pour West Ham, puisque c'est seulement dans le temps additionnel qu'une fois de plus Leicester qui a craqué, Leicester qui menait 2-1 au moment où on entre dans ce temps additionnel, et par miracle un but d'ailleurs du bras, en l'occurrence de Dawson, dans le temps additionnel, permet à West Ham de revenir à la hauteur de Leicester. Et du coup, en fait, oui, les clubs qui s'en tirent le mieux, mis à part les Wolves bien évidemment vainqueurs à Tottenham, c'est Arsenal qui n'a pas joué. Et Arsenal, regardez Marie, le nombre de matchs qu'ils ont joués, 22 contre 25 pour West Ham, 24 pour Manchester United, et bon, ils sont à égalité de match avec Tottenham. Mais en l'occurrence, donc, ne pas jouer, en l'occurrence, a bénéficié à Arsenal, qui devait jouer, bien évidemment, ce week-end contre Chelsea, mais Chelsea, comme vous le savez, et avait d'autres choses en tête, puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi contre Palmeiras hier. Et d'après certains statisticiens qui se sont penchés en détail sur le parcours des Gunners jusqu'à présent et des matchs qu'ils ont à venir, apparemment, selon ces statisticiens, Arsenal a maintenant un peu plus de 50% de chances de terminer dans le top 4.
Un petit mot quand même sur le leader de cette première ligue, leader intouchable, Manchester City, qui a gagné 4-0 hier contre Norwich. Bon, tout va bien du côté des Citizens.
Et tout va bien du côté de Raheem Sterling également, puisqu'il a loupé un pénalty, mais il a marqué 3 buts pour se consoler. Donc, absolument aucun problème. Victoire 4-0 sur le premier relégable Norwich City.
Le rugby, le tournoi des Six Nations avec la victoire des Bleus contre l'Irlande, 30-24. Dans les autres matchs, le Pays de Galles a battu l'Écosse 20-17. L'Angleterre a écrasé l'Italie 33-17. à 0. On passe au tennis avec la finale de Rotterdam qui a été remportée dimanche par le Canadien Félix Auger-Aliassime qui a battu le Grec Stefanos Tsitsipas. Et la finale des dames à Saint-Pétersbourg avec la victoire de l'Estonienne Kontaveit contre la Grecque Sakkari. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.